Depuis deux dimanches déjà, c'est le troisième, nous avons commencé une série de prédications pour explorer le sujet de la relation fraternelle entre frères et sœurs en Christ. On a déjà un peu parlé de notre unité, on a parlé de ce qui nous réunit, le sacrifice du Christ, le Saint-Esprit. Justement, il y a deux semaines, nous avions vu que l'Église, c'est avant tout un peuple. Pas un bâtiment ni une institution, mais un peuple que Dieu a désiré, qu'il a rendu possible à la croix, pour enfin unir ce peuple en donnant son esprit à chacun des croyants. Et ce même dimanche, nous avions découvert que le principe central sur lequel repose l'Église, le principe central qui doit guider notre vie et nos relations dans l'Église, c'est l'amour mutuel, réciproque. Aimez-vous les uns les autres. Dimanche dernier, nous avons vu deux exhortations qui viennent préciser comment vivre cet amour mutuel. Tout d'abord, dans l'Épître aux Hébreux, « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Puis, dans l'Épître de Jacques, « Priez les uns pour les autres. » Aujourd'hui, nous allons continuer cette série de prédications intitulée « Une Église, les uns les autres » par la lecture d'un simple verset. Je vous rappelle simplement que si vous êtes de passage ou si vous n'étiez pas là pour les dimanches d'avant, ne vous inquiétez pas, sur le site web de notre Église, vous pouvez trouver tous les messages en audio ou en lecture, si vous le préférez. Alors, nous allons lire ce matin un verset, un simple verset, de l'évangile de Marc au chapitre 9, le verset 50. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. En général, lorsqu'on parle de paix, on peut donner deux sens, généralement, à la paix, deux sens différents. La paix extérieure, l'absence de conflit, de guerre, ou la paix intérieure, ne pas être en conflit avec soi-même. Mais la Bible va plus loin, et à de nombreuses reprises, elle nous parle également d'une paix qui n'est pas de ce monde, une paix avec Dieu. Parce que, on l'a dit, Dieu est saint, Dieu est parfaitement bon, et il ne supporte pas le mal. Eh bien, nous tous qui avons déjà pratiqué le mal durant notre vie, nous n'étions pas alors en paix avec Dieu. Heureusement pour nous, Dieu a fait ce qu'il fallait pour nous réconcilier avec lui, on l'a dit, pour que nous soyons enfin en paix avec lui-même. Dieu est devenu un homme, Jésus-Christ, pour pouvoir subir à la place des humains que nous sommes, ce qui est la conséquence du mal que nous faisons. Et la Bible nous dit que la conséquence du mal, c'est la mort. Le Christ sur la croix a pris sur lui cette conséquence. Il est mort à notre place. Et depuis, il nous suffit de l'accepter comme notre Sauveur et Seigneur pour recevoir gratuitement son pardon. Et ne plus être en révolte contre Dieu. Vivre enfin en paix avec Dieu. Le verset qu'on a lu ne parle pas de paix avec Dieu. Il parle de paix entre croyants les uns les autres. Mais comprenons bien que la paix entre les humains ne pourra jamais être complète si elle ne se base pas avant tout sur cette paix avec notre Créateur. Toutes les initiatives de paix en ce monde sont belles, sont à valoriser, à encourager. Mais sans la paix avant tout avec Dieu, elles resteront malheureusement incomplètes, imparfaites, parfois même stériles. Lorsque la paix entre les humains vacille, ça signifie avant tout que nous devons à nouveau rechercher une paix complète avec le Seigneur, c'est-à-dire reconnaître nos torts et rechercher son pardon. Nous l'avons lu, le Christ nous demande en Marc chapitre 9 « Soyez en paix les uns avec les autres » et dans cette simple phrase, nous trouvons l'essentiel de ce que doivent être nos relations au sein du peuple de Dieu. Tout d'abord, cet appel à la paix au sein du peuple de Dieu, il est adressé, vous remarquerez, aux croyants, aux membres de la famille de Dieu, pour qu'ils vivent en paix les uns avec les autres. Dans ce texte, Jésus s'adresse, est en train de s'adresser à ses disciples uniquement. On ne parle pas ici d'une paix dans le monde entier. Il y a d'autres passages bibliques qui nous parlent de la paix dans le monde, d'y œuvrer aussi tous ensemble. Mais ici, Jésus demande à ses disciples de faire la différence dans le monde par une paix que ce monde ne connaît pas. faire la différence par leur relation fraternelle, être comme le sel qui donnera une bonne saveur à ce monde. Les croyants ne portent pas sur leurs épaules la paix mondiale, mais par leur relation fraternelle, les croyants peuvent marquer ce monde. Ensuite, il est demandé aux croyants de vivre cette paix les uns avec les autres, c'est-à-dire de manière réciproque, mutuelle. Entre croyants, non seulement nous devons nous-mêmes travailler à la paix avec les autres, mais nous pouvons également nous attendre de manière légitime à ce que les autres fassent pareil. C'est un engagement mutuel. On reparlera de cet engagement un peu plus tard, mais il y a d'autres textes qui nous demandent de vivre en paix avec tous les hommes. Mais ces textes nous disent « tant que cela dépend de vous », ou selon les traductions « autant que faire se peut hein, », vivez en paix avec les autres. Mais on ne peut pas exiger la paix mutuelle avec ceux qui n'ont pas la paix avec Dieu. En revanche, entre croyants, cette paix doit être mutuelle. Nous sommes en droit d'attendre la paix de la part de nos frères et sœurs en Christ, tout comme eux sont en droit de l'attendre de nous-mêmes. C'est un engagement mutuel. On reparlera de cet engagement. Enfin, ce texte n'est pas une suggestion, vous l'aurez remarqué, hein, le verbe est à l'impératif. Avec ce verset, la paix entre croyants n'est pas une option, c'est un commandement. La paix entre croyants devrait être systématique. Il ne devrait pas en être autrement. La paix entre croyants, ça devrait être une base, une volonté commune, un travail commun, mutuel, réciproque et continu. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de communautés chrétiennes, même en crise ? Pourquoi autant de croyants se disputent ? Pourquoi les tensions, pourquoi les rancunes, pourquoi parfois même les guerres entre croyants? Pourquoi la dégradation parfois de nos relations? Nous recevons pourtant tous ce même commandement du Seigneur. Nous recevons également tous de Dieu l'Esprit Saint qui nous travaille, qui travaille en nous à renouveler notre être de l'intérieur, à produire en nous toutes sortes de fruits bons et agréables à Dieu. Et je vous rappelle que l'un de ces fruits de l'Esprit, c'est justement la paix. Pourquoi donc cette paix entre nous n'est pas systématique? Eh bien parce que malgré tout, nous restons imparfaits. Nous restons têtus. Nous restons durs de cœur. Et le mal continue à faire son œuvre dans nos vies. Parfois, nous ne suivons pas la volonté de l'Esprit de Dieu, mais nous suivons simplement nos désirs, juste humains. Et le chapitre 5 de l'Épître aux Galates nous en parle, il nous dit au verset 19 « Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions. » Toutes ces choses, lorsqu'elles arrivent, ce n'est pas l'œuvre de Dieu en nous. Non, c'est juste nous-mêmes qui laissons la place à ce qu'il y a de plus pourri en nous. Ce sont des choses qui ne devraient pas être entre frères et sœurs en Christ parce que l'Esprit nous guide vers autre chose. Mais comme ce mal fait partie de nous-mêmes, eh bien des fois, malheureusement, ça arrive encore. Heureusement pour nous, Dieu ne nous laisse pas tomber même dans nos limites, dans nos failles et dans nos manquements. Il continue à nous montrer ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est parfait à ses yeux. Et toujours dans ce chapitre 5 de l'Épître aux Galates, cette fois au verset 16, il nous dit « Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. » Et plus loin, au verset 25, « Puisque l'Esprit est la source de votre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. » Nous avons un problème que nous ne pouvons pas résoudre par nous-mêmes. Celui du mal qui est en nous et qui parfois dirige nos actes, dirige nos pensées. Alors Dieu nous dit, ne luttez pas. N'essayez pas de vous battre contre vous-même. N'essayez pas de vous en sortir par vous-même, mais laissez-moi faire, nous dit le Seigneur. Par son esprit en nous, Dieu veut que nous le laissions diriger nos vies, nos actes, notre conduite, pour nous conduire, dans le bien, et ce dans tous les domaines, même dans celui de nos relations. Au final, oui, ce sera notre conduite, nos choix, nos actes, mais il nous suffit, nous dit ce texte, de nous laisser guider par l'Esprit de Dieu, nous laisser guider par les conseils de sa parole. Il suffit de rester sensible à la conduction du Saint-Esprit. Il suffit de ne pas freiner, de ne pas empêcher son œuvre en nous. Il faut nous laisser guider pour voir éclore dans nos vies ces fameux fruits de l'Esprit dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, la paix. Nous ne produirons pas cette paix par nos simples efforts. C'est Dieu qui veut la produire en nous. Alors laissons-nous guider. Et c'est guidé par l'Esprit de Dieu que nous pouvons alors prendre cet engagement mutuel de la paix les uns avec les autres. Je vous ai dit qu'on allait reparler un peu d'engagement. Eh bien, ceux qui sont de passage parmi nous ne le savent sûrement pas, mais ceux et celles qui demandent à devenir membres de notre communauté prennent 6 engagements, tous les uns envers les autres. Ces 6 engagements sont mutuels. Tous les membres les prennent, les uns avec les autres, les uns envers les autres. Alors le but, ce n'est pas de créer une nouvelle loi, mais le but, c'est de pouvoir s'encourager, se soutenir, voire parfois même, et oui, c'est ça aussi l'amour, avec amour, se reprendre parfois dans ces 6 domaines que nous pensons essentiels. Ces engagements ne sont pas une loi, mais sont pour nous l'expression du désir profond de notre cœur dans ce que nous voulons vivre en Église. Et ces 2 engagements, et 2 de ces 6 engagements, pardon, concernent nos relations fraternelles. Tout d'abord le premier, je m'engage à préserver l'unité de la communauté en agissant avec chacun, envers chacun, avec amour. Et le 6e, qui nous tient particulièrement à cœur, je m'engage à mettre un terme aux ragots, aux critiques et aux calomnies dans l'Église. Comme je le disais, ce n'est pas une loi. Simplement, nous croyons que ces choses sont essentielles, que la Bible nous les enseigne et que le Saint-Esprit de Dieu veut nous guider dans cette direction. Nous nous savons complètement dépendants de Dieu pour y parvenir. Et nous savons également que nous avons besoin les uns des autres pour progresser dans ces engagements. Parce que la question n'est pas « est-ce que ça va m'arriver de ne pas respecter mon engagement ?» Mais la question, c'est quand est-ce que ça va m'arriver de ne pas respecter mon engagement ? Parce que c'est une certitude. Je n'y arriverai pas. Nous restons fragiles, nous restons faillibles, nous restons imparfaits. Mais prendre ces engagements les uns envers les autres nous donne cette légitimité de pouvoir aller nous voir avec amour, pour nous féliciter, pour nous encourager, ou même parfois, dans la paix, nous reprendre s'il y a besoin. Parce que pour nous transformer à sa ressemblance, Dieu utilise son esprit en nous, certes, mais également il utilise son œuvre dans nos frères et nos sœurs. Nous avons besoin de cet engagement ne soit pas fait qu'envers Dieu, mais les uns envers les autres. Et c'est en ayant conscience de tout ça que nous pouvons alors, oui, travailler concrètement à mettre en pratique les différentes exhortations bibliques, et il y en a plein qui doivent nous conduire à la paix mutuelle entre croyants. En voici juste quelques-unes, il y en aurait d'autres. Tout d'abord, en Romains 14, verset 13, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. » Ça, c'est quand même quelque chose de très humain. On le fait souvent rapidement, on a l'impression de comprendre les autres, comprendre leurs actes, comprendre leurs motivations, et du coup, eh bien, on juge leurs intentions, même inconsciemment, sans le vouloir. On croit savoir, on croit deviner ce qui se passe dans le cœur des autres. Mais lorsque Dieu, dans sa parole, nous appelle à ne pas nous juger les uns les autres, il nous rappelle qu'entre frères et sœurs en Christ, nous devons avant tout chercher à nous comprendre, à comprendre l'autre, mais pas en fonction de ce que je suis moi, mais en fonction de ce qu'il ou elle est, de sa manière de penser, de vivre, de ses expériences, de son cœur. Il me faut donc chercher à connaître mon frère, ma sœur, et pas que superficiellement. Si certains pensent vraiment se connaître parce qu'ils se saluent chaque dimanche matin, ils se trompent. J'en suis persuadé, ça ne suffit pas, bien évidemment. Pour ne pas nous juger, il nous faut connaître. Pour connaître, il nous faut apprendre. Pour apprendre, il faut prendre du temps et il faut travailler. Prendre le temps d'une rencontre, et donc parfois l'organiser, la provoquer, hein, rencontrer volontairement, et travailler, c'est-à-dire faire des efforts pour découvrir qui l'autre est. Prendre ce temps et faire ces efforts sont la clé qui permet de ne pas juger l'autre. Et de cela découlera également notre obéissance à d'autres exhortations bibliques. Hein, voici quelques-unes. L'épître de Jacques au chapitre 5, le verset 9, nous demande « Ne vous plaignez pas les uns des autres ». Ça rejoint l'engagement qu'on prend, nous, entre membres. Et c'est totalement en lien avec le fait de ne pas se juger. Si je me plains, c'est que je considère qu'une chose a été injuste, mauvaise, donc c'est que j'ai jugé la conduite de l'autre. Alors oui, l'autre, peut-être, a été injuste envers moi. Mais pourquoi est-ce que je me plains à mes amis, à d'autres ? Pourquoi est-ce que je ne vais pas voir mon frère ou ma sœur avec amour pour le reprendre dans sa conduite ? C'est pas simple. Je sais, mais c'est bien plus sain que d'aller en parler à un groupe d'amis. En Jacques 4, verset 11, « Frères, ne vous critiquez pas les uns les autres. » Le lien semble évident. Hein, au jugement de l'autre, intérieurement, succède bien souvent la critique plus ou moins ouverte, plus ou moins cachée. Puis en Zacharie 8, verset 17, oui, même dans l'Ancien Testament, « Ne tramez pas du mal l'un contre l'autre. » Ça peut aller plus loin. Parce que lorsque le mal nous pousse plus loin que le jugement, la plainte ou la critique, il peut nous amener à souhaiter que l'autre souffre à cause de ses actes. Et là, le mal va plus loin en moi. Il m'amène à désirer le mal pour l'autre. Il y en aurait encore beaucoup d'autres. On pourrait parler de ces textes qui nous disent « Ne vous provoquez pas, ne vous jalousez pas, soyez bons les uns envers les autres ». Mais dans tout cela, nous comprenons avant tout que vivre une paix mutuelle et durable, on l'espère, entre frères et sœurs en Christ, c'est pas un acquis. C'est une chose que Dieu désire, qu'il a rendue possible en établissant avant tout la paix entre nous et lui-même. Pourtant, cette paix entre nous peut être fragilisée par nos limites, par notre conduite, lorsque parfois, eh bien, très insidieusement, nous en venons à ne plus nous laisser guider uniquement par l'Esprit de Dieu, mais que nos vieux réflexes humains reprennent le dessus. Mais grâce à Dieu, si parfois nos relations se détériorent en partie, nous avons le moyen pour venir ramener toute chose vers la paix de Dieu. Et je dis bien le moyen parce que c'est le seul. N'en cherchez pas d'autre. Ce moyen, c'est sans aucun doute une des plus grandes puissances qui peuvent exister en ce monde. C'est par ce moyen que Dieu a décidé de changer la vie de millions d'êtres humains. C'est par ce moyen que Dieu a établi la paix entre lui et nous, et qu'il désire également voir mûrir le fruit de la paix entre les membres de son peuple. Ce moyen qui peut restaurer toute relation, rétablir toute injustice, ce moyen qui est l'expression ultime de l'amour les uns envers les autres. Je veux bien sûr parler du pardon. Dans ce chemin, demandons l'aide de Dieu, parce qu'il nous promet, dans sa parole, par son esprit en nous, de faire pousser ces fameux fruits de l'esprit dont la paix fait partie. Car le but ultime de nos relations fraternelles, ne l'oublions pas, ce n'est pas uniquement notre bien-être communautaire, mais c'est avant tout le témoignage, marquer ce monde, être le sel de cette terre, selon cette promesse que nous fait le Christ. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes témoins, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Soyons donc des membres fidèles du peuple de Dieu, des disciples du Christ qui veulent vivre d'une manière qui rende gloire à Dieu, des frères et sœurs en Christ qui témoignent ensemble de leur foi dans la paix et dans l'amour. Amen.